Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'Enum, l'émission numéro 55. Le podcast de la rédaction des numériques est déjà de retour, je suis Mathieu et je suis ravi d'en animer ce nouveau numéro, un sacré numéro même puisque vous n'êtes certainement pas sans savoir que s'est tenu ces derniers jours le Salon Mondial que tous les amateurs de jeux vidéo suivent avec passion. Je parle bien évidemment de l'E3 ou E-Cube pour les vrais carrés, mais nous on va dire E3. Un salon qui, Covid oblige, s'est tenu une fois de plus entièrement en ligne et durant lequel les éditeurs ont enchaîné leurs conférences à un rythme assez effréné pour présenter leurs futurs jeux. Bien évidemment, le suivi très en détail de cet événement a été réalisé avec brio par plein de sites spécialisés et notamment nos voisins et amis du site Gamekult qui ont sacrifié bien des heures de sommeil et turbiné comme des fous pour en extraire tout ce qu'il y avait d'intéressant à dire. Un gros big up à eux puisque leur travail m'a aussi permis de préparer cette émission, donc on va les remercier. Bien évidemment, Gamekult a mérité une petite période d'hibernation. Ce sont donc quelques-uns de nos spécialistes maison en jeux vidéo qui sont à mes côtés pour parler de cette E3. À commencer par Fabien, notre chef de service loisir. Salut Fabien.
Salut Mathieu, salut à tous. Ravi de vous retrouver pour ce podcast 100% gaming.
Yes, je suis très content de t'avoir avec nous, d'autant plus qu'on est tous les deux en compagnie de Kevin, qui est un journaliste sur la partie mobilité, mais qui est aussi un grand gamer. Salut Kevin, ça va ?
Salut tout le monde, ça va très bien et vous ?
Impeccable, écoute, comme des gens qui viennent de suivre plein de conférences de l'E3, on est excités de ces nouveaux jeux à venir, ou pas d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. L'édition 2021 a-t-elle tenu ses promesses ? Après des précédents salons qui avaient été exceptionnels forcément, puisqu'ils faisaient la part belle au hardware et aux nouvelles consoles, c'est ce qu'on va voir ensemble après un tout petit jingle. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, on peut peut-être apporter un peu de contexte pour commencer cette émission, à savoir que les consoles de nouvelle génération, elles sont sorties en fin d'année dernière et qu'elles n'ont pas été aidées par une situation globale de pénurie sur certains composants informatiques phares, ce qui fait que l'expansion de leur parc respectif de machines installées, il est encore bridé à ce jour. Du coup, nous, les technophiles invétérés qu'on est, on a Dieu que pour les Xbox Series X et les PlayStation 5, mais une grande majorité de joueurs jouent encore sur Xbox One et sur PlayStation 4, et j'imagine que c'est forcément quelque chose qui est très important à garder en tête quand on fait la lecture avec un peu de recul de cette E3 2021, n'est-ce pas ?
Eh bien exactement Mathieu, parce que les PS5 et Xbox Series X et S, elles ont beau être sorties fin novembre, voire début novembre pour la Xbox, elles en sont toujours à moins de 10 millions d'unités vendues. Okay. Ça s'explique par les pénuries de composants, mais aussi parce que la période est relativement courte par rapport à la durée de vie des précédentes générations. Mm-hmm. Parce que pour rappel, la PS4, c'est quand même 116 millions maintenant de consoles à travers le monde. Pour la Xbox One, c'est sensiblement moins, mais c'est quand même 50 millions, donc 10 fois plus que les Xbox Series. Mm-hmm. Et donc forcément, quand les éditeurs voient le parc de machines installées, ils se disent « on va peut-être pas sortir nos jeux uniquement sur les nouvelles générations de consoles, parce que sinon, on est un petit peu mal pour les chiffres de vente qu'on va réaliser ».
On est vraiment dans cette période de transition qui est assez logique, parce que même, j'ai parlé de la pénurie, mais même s'ils arrivaient à fabriquer autant de consoles qu'ils voulaient, y a forcément le marché ne va pas aller directement sur la nouvelle génération. Les machines restent quand même assez chères, et puis les joueurs ont besoin d'attendre de voir justement quels sont les nouveaux jeux pour faire la migration, quoi.
Donc c'est vrai que après l'éditeur il se pose pas de questions en général, il se dit j'ai 8 millions de PS5, j'ai 116 millions de PS4, est-ce que je prends le risque de sortir mon jeu uniquement sur PS5? Donc forcément sur les studios qui appartiennent à Sony, là pour le coup ils sont pas trop dérangés de ce point de vue là, parce que de toute façon ils vont en vendre sur la durée aussi de leur jeu. Sur les autres jeux qui sont multiplateformes, la question se pose, et c'est pour ça que justement à l'E3, le premier constat qu'on a pu faire, c'était de voir que les jeux, pour la plupart, continuent à sortir à la fois donc sur les PS5 et Xbox, mais aussi sur les anciennes générations de PS4 et Xbox One. Ouais. Pour la plupart, en tout cas chez les éditeurs tiers qui ne veulent pas se priver de cette manne potentiel.
Bah c'est ça, en fait. Ces deux dernières années, on avait commencé à voir arriver la première génération de jeux de nouvelle génération, mais la plupart étaient quand même en réalité des jeux qu'on appelle donc cross-gen, hein, c'est le terme qui est employé,
qui
sont développés pour sortir à la fois donc, sur les PS4, Xbox One, et aussi sur les PS5 et Xbox Series X. Donc c'est un entre-deux qui présente des défauts et aussi des défis pour les studios. On pense notamment à Cyberpunk, par exemple, qui en a fait les frais. Est-ce que cette année, avec l'E3 donc 2021 qui vient de se passer, les jeux sont enfin plus développés dans cette optique de nouvelle génération, avec toutes les améliorations techniques qu'on va attendre et imaginer?
C'est un peu ça. Après, Cyberpunk, c'est un très bon exemple parce que ça montre un petit peu le type de jeu qui, lui, a été justement imaginé pour sortir sur la nouvelle génération et sur les PC, et pour lequel ils ont rajouté, finalement, ils semblent avoir rajouté un peu une compatibilité PS4, Xbox One, et qui, pour le coup, s'est révélé catastrophique puisque le jeu était non seulement buggé, mais en plus... Incroyablement lent sur ces plateformes-là.
Le
framerate était vraiment mauvais. Il n'y avait rien à faire.
Il n'y avait rien qui allait, c'était horrible. Ouais.
Au point qu'il l'avait supprimé du PlayStation Store et que là, il commence tout juste à le remettre en place avec quelques améliorations. Mais sur les jeux de l'E3, là, on voit quand même que les éditeurs font un petit peu plus attention, quitte à brider un petit peu les capacités, les performances graphiques de ce qu'ils vont proposer sur leurs jeux.
Après, on le sait maintenant, en plus, il y a toute une partie mise à jour des jeux. Donc, c'est vrai depuis plusieurs années, plusieurs générations, mais encore plus maintenant, il y a des nouveautés même graphiques ou techniques qui peuvent être ajoutées au fur et à mesure des mises à jour des jeux.
Oui, c'est ça. Ouais. Après, on l'a vu du coup sur l'E3, les éditeurs tiers, justement, vont sortir, par exemple, sur Far Cry 6. C'est typiquement le jeu multiplateforme par excellence. Il va sortir sur toutes les consoles de salon. Et pour le coup, pas forcément pas faire un bon énorme en termes de graphisme ou de qualité audio même. Et à l'inverse, même sur des nouvelles licences, je parle notamment chez Square Enix, qui va sortir un jeu Guardian of the Galaxy, et qui pour le coup est donc une nouvelle licence, et va quand même sortir aussi sur PS4 et Xbox One.
Ok, je vais avoir une question un peu similaire, mais cette fois-ci du côté des exclusivités, parce qu'on le sait, les Xbox Series X et S et PlayStation 5 sont deux superbes consoles d'un point de vue matériel, on l'a vu dans nos tests, mais leurs capacités, elles sont finalement assez proches. Alors pour se décider, les joueurs, ils vont privilégier un écosystème par rapport à un autre, et dans ce choix, quelque part, les jeux, les éventuelles exclusivités qui sortiraient que chez l'un ou chez l'autre, c'est ça qui va aussi faire pencher la balance. Alors, est-ce qu'on a vu de nouvelles exclusivités être annoncées sur cette E3 2021 ?
Je crois que Kevin, il a été très, très... Il a bien regardé toutes ces exclusivités de près.
Ouais.
En vrai, pour le coup, il n'y en a vraiment que chez Microsoft / Bethesda, qui a tenu une des, si ce n'est la meilleure conférence de cette E3 online.
Ok, tu l'annonces direct, la conférence gagnante, c'est ça.
C'était trailer de jeu sur trailer de jeu, ça soufflait très très peu, donc pour le coup c'était vraiment la meilleure, et c'est aussi du coup le seul constructeur qui a pu se permettre d'annoncer des exclus pour Xbox Series X et Series S,
okay.
Puisque Sony boude l'E3 depuis 3 ans je crois maintenant, et fait des conférences à part qui s'appellent des
State of Play. Ils font leurs propres événements. Ouais,
c'est ça. Et ils sont très présents au Tokyo Game Show aussi, normalement, où ils font une grosse conférence. Donc ça, c'est plutôt à la fin de l'été. Mais niveau exclu, à part Microsoft, y a rien d'autre, puisque le reste, c'est que des éditeurs tiers, comme le disait Fabien. Et donc, qui dit éditeur tiers, généralement, c'est assez rare que ce soit une exclu sur une seule machine.
Alors, rentre un peu dans le détail. C'est quoi ces exclus qui t'ont marqué?
Déjà, tu as tous les jeux Bethesda qui ont été annoncés. Donc, Elden Ring, très attendu. Le fameux héritier de l'âme Souls, qui a été fait par George R. R. Martin.
Elden Ring, c'est un nouveau jeu de Hidetaka Miyazaki, qui est le créateur de Dark Souls et Sekiro, qui sont des jeux avec un univers très connu, hyper difficile, enfin vraiment qui ont vraiment une grosse base de fans. Et donc là, il s'est mis à travailler en partenariat avec George R.R. Martin, qui est donc Monsieur Game of Thrones, quoi.
C'est ça, exactement. Après, on peut parler de Redfall aussi, qui est une nouvelle licence annoncée à la toute fin de la conférence Microsoft Bethesda, qui dans l'idée fait un peu penser à un Borderlands dans l'esprit, au niveau des perks des personnages, chacun a ses petites capacités, ça a l'air assez sympa. On a aussi The Outer Worlds 2, qui était un peu inattendu, puisque le premier n'a pas forcément bien marché, mais ça reste, je pense que ça va rester une exclue pour le coup, cette fois, Microsoft.
Pas forcément un succès public, par contre, un succès critique assez phénoménal.
Ouais, non, c'est plus dans l'autre sens, je pense, d'ailleurs. C'était un jeu qui est sorti un peu buggé, pas très bien fini.
Ah, j'avais cru que c'était... Ah, d'accord.
C'était pas une cata à la Cyberpunk, mais moi, j'y avais joué et j'avais pris du plaisir. Mais après,
ça marche.
Et on va finir par parler de Forza Horizon 5, qui est du coup l'exclu Microsoft en toute honnêteté et bien sûr sans qui est la meilleure en fait, voilà. Hein, on va se le dire. qui paraît, bah, en fait, qui est une exclu Microsoft, donc une exclu Xbox et PC Windows, et qu'on ne verra jamais arriver sur PlayStation.
Et après, par contre, c'est un petit peu Nintendo, l'exception.
Hein. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'exception pour le coup.
Bah, c'est un peu l'exception dans le sens où c'est une exclue Xbox, mais qui va aussi sortir sur Xbox One. Donc c'est après, on se demande justement à quoi va ressembler le jeu sur Xbox One. Parce que forcément, ils ont montré un trailer qui vraiment superbe. Hein, les panoramas sont magnifiques. C'était déjà le cas dans Forza Horizon 4. Ouais. Mais là, bon, voilà, ça monte d'un cran. Donc, j'imagine que la version qu'ils nous ont montrée, c'était clairement une version PC ou Series X.
Oh oui, il y a de grandes chances. Hein, pour
après, voilà, voir justement ce que ça va donner sur une Xbox One, ça va être intéressant.
Bah, c'est intéressant parce que les
essais à foison, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, les jeux de bagnole, historiquement, c'est quand même des vitrines technologiques. Tu vois, c'est là-dessus souvent que les constructeurs y mettent le paquet pour tout ce qui est réflexion sur les carrosseries, toi, le soleil au loin qui se couche. Enfin, c'est vraiment des jeux qui techniquement envoient vraiment pas mal. Et on est souvent bluffé par ces jeux de voiture. Et c'est vrai que celui-là montre encore davantage le potentiel de la nouvelle génération. Et c'est vrai que j'ai regardé un peu sur les forums et tout le monde est unanime en disant la vache, le trailer de ce Forza Horizon 5 nous a tous un peu cassé la rétine.
Après, pour continuer sur les exclus, t'as toujours Nintendo, mais Nintendo c'est un peu à part parce que Nintendo en fait son seul concurrent c'est Nintendo, tu vois. C'est,
évidemment. Ouais. Donc, bon, on parlera de Nintendo un peu en fin de cette émission. J'ai prévu aussi des questions sur Nintendo. Du coup, il y a aussi un autre truc qui se passe chez Microsoft et Xbox, c'est qu'ils ont une stratégie qui est en train de se mettre en place depuis un petit moment déjà et qui est assez pertinente autour du Xbox Game Pass. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Fabien, sur les nouveautés autour du Xbox Game Pass?
Ben, on peut tout simplement dire que Microsoft mise toujours aussi gros sur son offre d'abonnement, hein, qui, pour rappel, est une offre qui permet d'accéder à un catalogue de plus d'une centaine de jeux, avec un abonnement à 10€ par mois pour la version classique et 13€ sur la version Ultimate, qui inclut aussi l'accès aux jeux sur PC. Et aussi à la partie cloud gaming, on pourra y revenir. Hein, ça permet d'accéder du coup à tout le catalogue de jeux Xbox Game Pass sur à la fois les consoles de salon, le PC et même maintenant les mobiles.
Ouais, les smartphones. Ouais.
Les smartphones, les tablettes, etc. Ouais. Donc ils misent beaucoup là-dessus, à tel point que du coup, sur les 30 jeux qu'ils ont présentés là, pendant leur conférence, il y en a 27, si je dis pas de bêtises, qui seront inclus dès leur sortie dans le Game Pass. Donc en fait, en gros, on paye 10€ par mois et tout le catalogue à venir sera accessible, quoi. Okay. Donc clairement, ils misent toujours aussi gros là-dessus et voilà, c'est ça fait
ils
partie
ont double
de
stratégie en fait. Voilà, ils ont la partie vraiment hardware avec les Xbox Series X et S, mais ils insistent quand même beaucoup toujours sur ce Game Pass et ils y apportent toujours beaucoup de jeux en fait. Hein. C'est parce que si ça doit fonctionner, c'est parce qu'il y aura des jeux et des jeux assez récents.
Et pour depuis quelques années, où ils misent vraiment que là-dessus, et quitte à pas forcément mettre le paquet, j'allais dire, sur les consoles. Ils ont sorti quand même une très bonne console, enfin deux très bonnes consoles. Mais là, on voit qu'ils résonnent en termes d'écosystème, et c'est plus ou moins. Alors, Sony se met aussi à faire un petit peu ça, mais là, pour le coup, Microsoft est vraiment à fond sur ces stratégies-là. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'au final, là, on parle de changement de génération, de jeux cross-gen. Et bon, Microsoft va certes migrer sur des jeux qui sont prévus pour le hardware Series X et Series S, mais avec toujours cette vision justement de sortir le jeu sur un maximum de plateformes possibles, quitte à passer par le cloud gaming pour justement que les possesseurs de Xbox One, entre autres, qui n'ont pas qui n'ont pas envie d'acheter la nouvelle console, bah, puissent y jouer quand même, finalement, s'ils ont une bonne connexion Internet.
Ouais, dans de bonnes conditions. Alors, on a parlé d'Elden Ring, qui était d'ailleurs annoncé un petit peu avant l'E3. On a parlé de Forza Horizon 5, des jeux Bethesda, etc. Mais à titre tout à fait personnel, j'ai regardé d'un peu loin, j'avoue, quand même, les conférences. Et j'ai surtout rattrapé les comptes rendus. Mais ça m'a quand même semblé, au-delà de quelques moments comme ça, quelques étincelles, un peu mou dans l'ensemble. Est-ce que je me trompe ou pas?
Non, pas du tout. En vrai, non. C'était assez spécial comme E3, ouais, selon moi. Il y a eu beaucoup d'annonces de jeux, beaucoup de nouvelles licences, beaucoup de trailers de gameplay, beaucoup de juste trailers ou même d'annonces de projets. Mais ouais, dans l'ensemble, c'était un E3 un peu qui n'avait pas la même saveur par rapport à ceux qu'on pouvait avoir les années précédentes. Bon, évidemment, après, c'était en ligne, donc c'est jamais vraiment
forcément
pareil.
Ouais.
Mais ouais, moi, j'ai ressenti un peu la même chose que toi. Pour le coup, je trouvais ça un peu plat.
Ouais, je rejoins un peu Kevin, mais c'est surtout que c'est un petit peu... C'est à la fois dense et décousu, en fait, puisque tout le monde balance ses trailers, même si l'organisation de l'E3 essaye justement de faire un planning avec des conférences qui ne se chevauchent pas, évidemment. Mais pour le coup, du côté joueur, le spectateur, il va voir une avalanche de trailers et pas forcément immédiatement les retours de la presse spécialisée qui va pouvoir avoir, essayer des jeux comme il fait habituellement sur place, en fait. Il va avoir des accès à des démos jouables ou pas, hein, mais...
C'est ça, en fait, le côté en ligne fait perdre l'intérêt de suivre les équipes qu'on aime bien, notamment, je ne sais pas, celle de Gamekult, qui, quand elle est sur place, nous fait des petites vidéos à chaud, en fait. Ils viennent de jouer à la démo E3 du jeu, et puis ils nous disent ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont vu, etc. C'est des choses qui apportent vraiment au salon, qu'on perd un peu forcément avec le côté entièrement en ligne de l'événement. Et puis, il y a un contraste énorme avec les années précédentes, où on parlait beaucoup de hardware, la nouvelle génération arrivait, ça créait beaucoup d'enthousiasme. Là, on est vraiment, tu vois, on est retombé à une édition. Enfin, je veux dire, le côté en ligne plus t'enlèves le hardware, etc. On est vraiment sur un truc qui a, j'ai trouvé en tout cas, moins passionné les foules, quoi.
Ouais. Après, je sais pas si ça, c'est difficile d'estimer si les foules ont été passionnées ou pas. Mais typiquement sur une conférence comme celle de Microsoft, enfin de Xbox, on voit que c'est une succession de trailers. Donc c'était déjà le cas plus ou moins les années précédentes, mais là, la différence, c'est qu'effectivement, on a la succession de trailers, donc ils en mettent plein la vue, mais il n'y a pas forcément d'approfondissement sur les jeux. On voit, on va pas tout de suite entendre les développeurs nous dire ce qu'ils ont voulu faire avec tel ou tel jeu. Donc au final, il y a des jeux qui restent un peu mystérieux. Ils vont être un petit peu remis sur le devant de la scène par justement des articles après de la presse spécialisée qui auront pu le voir après coup, ou même en embargo un petit peu avant. Mais pour le coup, voilà, c'est un petit peu particulier, ce format, parce que voilà, c'est des successions de trailers avec quelquefois des vidéos qui vont un petit peu approfondir le sujet, mais bon, c'est pas évident à suivre, en tout cas. Ouais. Je pense que nos amis de Gamekult là peuvent confirmer que c'était pas forcément évident de faire la synthèse de tout ça. Ouais.
C'est clair. Et puis Kevin a dit un truc très important tout à l'heure, c'est aussi que maintenant, le Covid a accéléré ça, les éditeurs, les constructeurs, ils programment leur communication tout au long de l'année avec les State of Play, chez Nintendo, c'est les Nintendo Direct, etc. Ce qui fait qu'en fait, on a plutôt que d'attendre un gros salon annuel où il va y avoir plein d'annonces, on a plein de petits bouts d'annonces disséminés au fur et à mesure de l'année.
Oui, c'est pas mal aussi, hein, effectivement. Hein, ça permet au moins de diluer un petit peu, de pas avoir... uniquement les gros jeux qui vont ressortir toujours pendant l'E3 et avoir un peu plus peut-être de visibilité pour les jeux un petit peu moins alléchants.
Parlons d'ailleurs de jeux, hein, parce que c'est quand même de ça qu'on parle. Alors, on a trouvé ça un peu mou, etc. Mais il y a quand même eu des choses, au-delà des exclusivités dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que, moi par exemple, Alors, je vous dis deux, trois trucs que j'ai repérés. Vous allez me dire ce que vous en pensez, peut-être. Y a Far Cry 6, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est quand même là un jeu très attendu chez Ubisoft.
Oui, bah, c'est l'une des grosses licences d'Ubi. Après Far Cry 6, pour le coup, il avait été présenté en amont de l'E3, la semaine d'avant, je crois. Donc, on avait eu l'occasion de voir, d'en savoir un peu plus sur l'histoire, de voir le premier trailer de gameplay, du coup. Et là, en fait, juste la conf Ubi, c'était juste l'occasion pour la boîte de montrer un nouveau trailer centré sur l'antagoniste principal.
Ouais.
Donc oui, c'est la licence, ils savent qu'ils vont en vendre, ils l'ont présentée parce qu'il fallait bien la présenter, mais c'était pas non plus la grosse annonce. Quoi,
chez Ubisoft toujours, il y a un jeu Avatar.
Ouais. C'est plutôt Avatar qui, change un petit peu, même si ça reste clairement, on pense que c'est un peu dans la grande lignée des jeux Ubisoft qui sont des jeux beaucoup en monde ouvert, donc là on va se retrouver dans Avatar, qui s'appelle donc Frontiers of Pandora, et qui va... Bon, on n'a pas trop de détails, hein, c'était un trailer avec le moteur du jeu, a priori, mais sans gameplay à proprement parler, et qui va nous plonger dans l'univers d'Avatar, avec ses grandes étendues, ses îles suspendues en l'air, là, donc ça va être sans doute...
Ce qui est marrant avec Avatar, c'est qu'en ligne, le retour des gens était en mode genre... Avatar existe encore, tout le monde a un peu oublié cette licence, alors qu'en fait, en vérité, il y a trois films, je crois, hein, qui vont sortir.
À partir de 2022, normalement, justement, ils devraient se caler, a priori, sur à peu près la sortie du film suivant, hein, parce que le jeu est prévu quelque part
en 2023.
La franchise Avatar n'est pas morte. On va en souper encore un peu.
Et pour le coup, c'est un jeu qui va fonctionner uniquement sur les PS5 et Xbox Series de ce monde et PC.
D'accord. Moi, il y a un truc qui m'a fait plaisir, je vous le dis, chez Ubisoft, c'est le retour de Mario et les Lapins Crétins, qui était le premier jeu auquel j'ai joué sur ma Switch, et qui est un petit tactical super cool. Et je suis assez content qu'ils en fassent une suite. En espérant qu'ils aient trouvé plein de petites idées de gameplay pour relancer le concept, mais ça, j'attends ça avec impatience. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? J'ai vu Stalker 2, forcément, Stalker.
Oui, voilà, pour le coup, c'est un bon ambassadeur de la nouvelle génération. Alors, c'était à la base un jeu PC, donc là, clairement, le trailer qu'on a vu, on pense plutôt que c'est un trailer PC avec notamment du ray tracing qu'on peut deviner. Donc il va exploiter les bonnes grosses cartes graphiques de nos chères bécanes
qu'on n'arrive pas à se payer ou qui sont indisponibles, mais en tout cas
qui coûtent deux fois le prix d'une console.
D'ici à ce que le jeu sorte, on espère qu'on
quand
aura
on aime,
tous
on ne compte pas. Et non, mais clairement c'est un ambassadeur, il a mis une grosse claque graphique dans un esprit différent forcément de jeux de course comme Forza Horizon, mais oui, voilà, c'est là clairement qu'on va voir justement ce que va apporter la nouvelle génération de consoles et qui va bien exploiter forcément les cartes graphiques de PC, hein, ça c'est sûr.
Ouais. Autre petit jeu, entre guillemets, parce que c'est un super jeu, c'est pas du tout un petit jeu, mais qui va arriver sur Xbox et PlayStation enfin, c'est Hades. Hades, pour ceux qui ne l'ont pas fait sur PC ou sur Switch, qui est un super super jeu, donc ça va arriver sur Xbox et PlayStation. Et puis il y a une autre annonce, c'est sur la licence Final Fantasy. On sait, hein, Final Fantasy c'est toujours une très grosse licence dans le monde du jeu vidéo, et on a une annonce de jeu qui sera un jeu un peu d'action, vraiment fait par la Team Ninja, alors qu'on connaît, pour ces incroyables Ninja Gaiden à l'époque. Je sais pas si vous avez suivi ça.
FF Origins, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Ouais. Moi j'aime bien Final Fantasy, mais j'ai vraiment pas trouvé ça incroyable. Hein. Ça m'a rappelé un peu Devil May Cry, qui est une licence que j'adore, mais genre un peu un DMC du pauvre.
Et puis Team Ninja, ils font, comme je disais, les Ninja Gaiden, etc. Mais c'est vrai que c'est un concept qui demande aussi, là aussi, à être modernisé, parce que c'est vrai que c'est un truc un peu vieillissant maintenant, comme type de gameplay, comme type d'approche, en tout cas, du beat'em all, même si c'est hyper pointu et tout ça. Donc je sais pas trop le mariage entre les deux avec Final Fantasy, mais un jeu qui reste peut-être un peu dans son jus, je sais pas. On verra ce Final Fantasy Origins.
Le trailer était un peu bizarre. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont sorti une démo sur PS5. Juste après l'annonce du trailer, et alors j'ai pas encore installé, mais je sais que Gotoz l'a fait, et Gotoz disait justement que l'impression manette en main était bien meilleure que ce qu'ils avaient pu nous montrer, donc c'est un jeu à surveiller quand même, parce que ça peut finir par être vraiment sympathique.
Et puis à essayer, avoir. Du coup, pour ceux qui ont la console.
Et puis à essayer pour ceux qui ont la PS5, ouais, c'est sûr. Et
qui, pour le
comme
coup,
toi,
est pas
les
tellement ambassadeur de la nouvelle génération, je trouve. Parce que graphiquement parlant, c'était quand même pas terrible. Hein. J'ai plutôt l'impression d'un jeu, j'allais pas dire PlayStation 3 quand même, mais c'était quand même pas génial. Bon, après, évidemment, ça fait pas tout. Hein. Mm. Les graphismes, c'est...
Évidemment.
Ce n'est pas le jeu vidéo, le graphisme.
Ouais. Est-ce que vous avez suivi la conf Capcom? Moi, j'ai pas du tout suivi ce qu'a annoncé Capcom.
Tu vois, Kevin, peut-être, qui a suivi toutes les confs.
Non, j'ai pas suivi toutes les confs. Non, je crois qu'il y a peut-être annoncé quoi, un nouveau SNK, peut-être.
Non, je crois qu'il y a un DLC pour Resident Evil Village là. Et j'ai pas suivi le reste. Bon, désolé.
Moi, c'est pareil. Ouais, c'est effectivement, il y a beaucoup de visions DLC, un petit peu d'e-sport aussi. Et globalement, les éditeurs maintenant essayent de faire durer vraiment leur jeu. Donc là, c'est pas surprenant que tout ce qui est Monster Hunter, Resident Evil, voilà, qu'il soit enrichi de contenu additionnel. Maintenant, c'est devenu la norme. Et pour le coup, ouais, il y avait rien de super novateur chez Capcom, mais bon. C'est pas forcément là-dessus qu'on les attend. Ouais.
Ouais, on va enchaîner du coup avec peut-être Nintendo, qui a fermé la marche, je crois. C'était une des dernières conférences de cette E3.
C'est, juste avant. La dernière, c'était Bandai Namco, mais elle a duré 10 minutes. Quoi, donc,
c'est pas... Ok, bon, on va dire Nintendo. Et alors du coup, chez Nintendo, de ce que j'ai pu voir, les gens, ce qu'ils ont retenu surtout, c'est évidemment la suite de Zelda Breath of the Wild et l'arrivée de Metroid, avec Metroid Dread.
Metroid 5, quelque part.
Ouais, l'arrivée d'une aussi, saga mythique sur Nintendo Switch.
Ouais, c'est ça. Alors déjà, ils ont parlé de Metroid Prime 4 en disant oui, vous inquiétez pas, on bosse dessus, parce qu'au final, le seul Metroid qui nous intéresse, c'est Metroid Prime 4. Mais pour ne faire patienter, il y a eu un petit Metroid Dread, ou Metroid 5, qui est un Metroid comme à l'époque, quoi, en fait.
Ouais.
Sauf qu'en 2,5D,
ouais, c'est ça. Vu de côté.
Qui a l'air assez sympa, hein. Pour le coup, je suis pas un gros fan des Metroid vus de côté comme ça, mais moi je dirais pas que je suis hypé, hein, mais je suis quand même très curieux.
T'es dans la cible qui pourrait patienter avec ce Dread en attendant ton Metroid Prime.
Ouais, il y a moyen, en vrai il y a moyen, je pense.
Et sur Zelda, j'imagine que ça vous a aussi donné envie, non?
Bah évidemment. Évidemment, attends. Le meilleur jeu de la Switch, le jeu qui m'a fait acheter une Switch, franchement.
C'est le moment où je me retiens, parce que moi, Zelda, j'ai pas accroché.
Ouais, en même temps, j'ai aimé Mario et les lapins crétins. Donc,
c'est bon, ça, voilà. Je suis une anomalie hein, dans cet échec.
Il va falloir être patient, hein, parce que pour le coup, ils l'ont annoncé un vague 2022. Là,
2022,
ouais. Du coup, on le verra peut-être sur Switch Pro. Peut-être.
Ouais,
si la Switch Pro arrive et qui s'appelle comme ça, d'ailleurs, on ne sait pas comment elle va s'appeler cette nouvelle Switch.
On ne sait pas. Tout le monde nous avait dit, vous verrez, la Switch devait arriver avant l'E3. Puis après, comme l'E3 arrivait, on s'est dit, peut-être ce sera à l'E3, vous allez voir cette Switch Pro. Et puis en fait, on a eu une nouvelle Game & Watch, tu vois.
Ouais.
Et oui, voilà, Game & Watch Zelda.
C'était la petite blague, oui, parce que donc nous, on n'a pas de Switch Pro, même si je pense qu'évidemment, les rumeurs sont tellement insistantes.
Il n'y a pas de
fumée sans feu. Et puis les infos qui viennent de l'industrie sont quand même assez précises pour qu'il y ait quelque chose qui soit en travail. Mais en tout cas, ce n'est pas pour maintenant. Et donc, une petite Game & Watch, comme ils avaient sorti l'édition Mario pour les 35 ans de la franchise Super Mario Bros. Là, c'est Zelda, parce que Zelda aussi va fêter ses 35 ans. Et du coup, c'est, vous savez, les vieux, tout le monde sait, la Game & Watch, les vieux jouets électroniques, la Nintendo, petite console à emmener, qui est déclinée sur le thème de Zelda avec les trois premiers épisodes, je crois, qui sont inclus. Et ça vaudra une cinquantaine d'euros, quoi, comme la précédente. Ah si, il y a quand même une console lors de cette E3. Si, une autre, c'est l'Amico d'Intellivision.
Oui.
Vous connaissez ce projet?
Oui, on le connaît. Voilà. Bon, ça ne fait pas rêver, forcément. Hein.
Non.
Je suis curieux de voir justement le succès, ou l'échec commercial qu'elle va connaître.
Pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, c'est une console donc rétro et familiale qui a profité de cet événement pour refaire parler d'elle. Non, c'est pas une blague, hein, c'est un projet dont on avait déjà parlé sur les NUM qui existe bel et bien, même si on a, comme vous avez compris, bien du mal à y croire. Ça fonctionnera sur la base d'un SoC Snapdragon. Et ça fera tourner quasiment, en tout cas au départ, que des rééditions de vieux jeux, Intellivision et Atari. Alors on a appris qu'il y avait des LED sur la base et sur les manettes qui
embarquent
un petit écran. Elles embarquent un petit écran, elles sont détachables sans fil, elles ont une petite roue crantée. Bref, ça a l'air génial.
Mais tu verras peut-être que tu en profiteras avec tes enfants. Hein. Tu as bien profité de Mario et la crétin.
Tu sais, je fais pas partie de ceux qui ont acheté une Ouya à l'époque.
C'était un très bon jeu.
Je fais partie de ceux qui avaient craqué pour la Ouya, donc je pense que j'attendrai de voir un petit peu la Mico dans
le Je pense que c'est le même public qui est visé, à mon avis.
Non, mais c'est vrai qu'en termes de hardware, c'était forcément... Bon, le 3, c'est pas forcément l'endroit où t'as du hardware à chaque instant, forcément, à part pendant les lancements de consoles. C'est vrai qu'on attendait la Switch Pro, mais pas forcément pendant le 3 non plus, parce que, bon, comme PlayStation, Nintendo fait ses annonces vraiment en marche pour se garder un maximum de visibilité. Après, il y a Xbox, quand même, qui a sorti un nouveau hardware, hein, la rubrique maison des numériques, etc.
Ah, dans les choses
de découvrir cette Xbox mini frigo, et oui. Il continue sur la blague du frigo, parce que forcément, pour ceux qui n'étaient pas au courant, la Xbox Series X, quand son design a été présenté, elle a été comparée avec un frigo américain un peu, donc du coup, Microsoft a très bien pris la blague et a décliné sa Series X dans un gros frigo en série limitée, vraiment pour la blague, pour le coup, on avait vu ça.
Bah, du coup, moi, j'ai pensé que c'était une blague. J'ai vu le truc passer sur Twitter, je pensais que c'était juste une blague, alors qu'en fait, non, le truc va sortir vraiment. Et j'ai pas fait trop attention à la taille qu'il avait, du coup.
C'est un mini frigo, hein, pour le coup.
C'est vraiment,
tu mets juste une canette, c'est ça, d'accord.
Non, tu mets plusieurs canettes, mais c'est des canettes. Alors, je pense que c'est des canettes de 50 centilitres, mais je n'ai pas vérifié. Hein. Je n'ai pas poussé
les canettes
professionnalistes jusque-là. Mais des grosses canettes que tu peux mettre dans la largeur. Donc oui, ça doit faire la taille d'une grosse Series X. Enfin, plus grosse quand même, hein, évidemment. Mais...
Et bon, on testera peut-être ça sur les numes, hein, puisqu'on teste tout et de plus en plus de choses. On ne sait pas.
Hein. Voilà, ouais.
Bon, bah moi, j'ai fait le tour un peu du déroulé que j'avais prévu. Je sais pas si vous avez d'autres jeux ou d'autres choses que vous voulez ajouter de votre côté.
Non, après, on a bien résumé. Ouais. Je pense qu'effectivement, le gros temps fort, entre guillemets, c'était quand même les annonces de Microsoft où ils ont mis le paquet avec Bethesda, Starfield, qui est du coup la nouvelle, nouvelle licence. Je ne sais même pas si on en a parlé de Starfield. C'est quand même le clou du spectacle, un petit peu.
Ouais.
Parce que c'est un jeu qui est annoncé depuis déjà un petit moment. C'est la nouvelle licence du coup des créateurs de Fallout et de The Elder Scrolls. Et donc, il y a une nouvelle licence. Ça fait 25 ans que Bethesda n'avait pas sorti de nouvelle licence comme ça. Donc, c'est forcément très attendu. Ouais. Et c'est en exclu, du coup, Xbox et PC. Donc, au grand dam des possesseurs de PlayStation 5, en l'occurrence. Et donc, ce jeu-là, ouais, on a vu un beau trailer qui, a priori, utilise le nouveau moteur du studio, qui est le Creation Engine 2. Et qui, par contre, montre un petit peu... ce que peut faire avec le moteur, mais c'était pas un extrait de gameplay, évidemment.
D'accord.
Donc, les séances précalculées ne préfigurent pas forcément le rendu final d'un jeu. On peut juste espérer que ça va être vraiment l'aventure spatiale à grande échelle, un grand RPG comme sait le faire Bethesda.
On espère, on croise les doigts. D'autres trucs que j'aurais oubliés ?
Les Gardiens de la Galaxie. Je sais que Fabien en a parlé, mais...
Ouais, j'en ai parlé au tout début, mais non, c'était un petit peu...
Ça, c'est exemple, mais pour le coup, c'est vrai que c'est une grosse licence.
Ouais. En vrai, c'est cool, parce que moi, j'avais bien aimé Avenger. Je fais partie des rares qui avaient aimé Avenger, mais parce que moi, je suis un gros fan de Marvel et des comics, donc j'avais bien aimé l'univers, même si j'avais été déçu. Et là, j'avoue que les Gardiens de la Galaxie, ça a l'air vachement prometteur. Ça n'a pas du tout l'air d'être le même gameplay que Marvel as Avengers. Donc, j'attends beaucoup, surtout si c'est aussi drôle que peuvent l'être les héros ces Gardiens de la Galaxie. Je l'attends beaucoup. Et en plus, il sort à la fin de l'année, donc je suis très content. Voilà.
Oui, ça va venir vite, ouais. Ouais.
Non, parce que tu peux déjà mettre ça sur ta liste du Père Noël, du coup, si je comprends bien.
Oui, mais je serai mon propre Père Noël dès septembre.
Ceux qu'on notait aussi, qui ont bien suivi la conférence Xbox, ont sans doute bien repéré aussi la suite de Plague Tale, qui est le jeu des studios Asobo, oui. Donc les créateurs de Flight Simulator, hein, qui n'a rien à voir, hein, évidemment. Mais la suite qui s'appelle Requiem. et qui, pour le coup, devrait, je pense, réjouir tous ceux qui ont bien aimé le premier épisode, qui était passé un petit peu sous les radars, alors que c'est pourtant un très bon jeu.
Ouais, il a eu bonne presse. Je sais qu'on en a, j'ai pas mal d'amis qui m'ont parlé en bien de ce jeu.
Et qui, pour le coup, présentait aussi, pareil, un trailer. Alors, c'était pas du gameplay, mais c'était avec le moteur du jeu. Donc là, pour le coup, ça devrait faire partie des jeux qui vont mettre en avant, justement, les performances des nouvelles Xbox, ouais.
Ouais. Bon, en tout cas, pour conclure, dire à nos auditeurs qu'il y a un dossier qui est en préparation, qui sera peut-être publié d'ici à ce que le podcast sorte, sur les numériques qui va arriver.
Il est déjà publié, mon cher.
Ah,
Mathieu,
je ne l'ai pas vu, mince. Eh bien, il y a un dossier sur le site, allez-y.
De cross-gen et de jeux qui ne sont pas encore spécifiquement prévus pour la nouvelle génération, mais voilà, ça, pour 2022, je pense que voilà, les joueurs de PlayStation 5 et Xbox Series X et S, on en auront enfin pour leur argent, vraiment, quoi.
Yes, bah, allez lire ce dossier sur les numériques. Si vous cherchez à approfondir vos connaissances sur le 3, qu'il y a des trucs que vous avez loupés, etc., il y a aussi Gamekult qui a fait un très gros travail de couverture, je l'ai dit, et c'est nos amis et voisins, et donc n'hésitez pas à aller sur leur site pour voir tout ça. Et puis bah, je vais remercier avec chaleureusement un grand merci à Fabien et Kevin de nous avoir glissé tous ces éclaircissements sur cette E3. Merci à vous, les gars.
Bah, il n'y a pas de quoi, hein, comme tu dis, hein, c'était un aperçu effectivement orienté jeu. Est-ce que la nouvelle génération est vraiment là? Bon, pas encore, mais si vous voulez en savoir plus, vraiment sur Gamekult, pour le coup, ils ont fait un super boulot,
ouais.
Avec de retours sur tous les jeux dont on a parlé ici et de tous ceux dont on n'a pas parlé non plus, parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
Bah oui, il y en a beaucoup, c'est très difficile, de toute façon, de faire son choix, puis de suivre un événement aussi touffu. On va aussi remercier Benoît, évidemment, qui lui aussi est un gros, gros gamer, on le sait, et qui a, j'espère, pris du plaisir à nous écouter en enregistrant cette émission. On va remercier tous ceux qui nous écoutent chaque semaine. Le rendez-vous est déjà pris pour la suivante. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.
Salut.
Salut.